Agile par ici, agile par là, beaucoup de gens en parlent et peu de personnes pratiquent l'agilité pour de vrai. Pour celles et ceux qui me connaissent, je suis un adepte de l'agilité, du travail vraiment collaboratif, du travail où celles et ceux qui font les choses ont la liberté de choisir la façon dont ils peuvent les faire. Pour te donner les clés de ce que ça change vraiment, ouais, le fait de travailler en agilité, notre invité du jour est Nicolas Kalmanovits, agile évangéliste, speaker, coach et senior manager chez Octo Technologies. Avec Nicolas, on a décidé de tout te dire sur le travail en mode agile et même de te faire un cadeau. Bonjour Nicolas.
Bonjour PPC.
Nicolas, première question pour toi. Travailler en mode agile, ça change quoi pour de vrai ?
L'agilité, c'est avant tout la capacité d'adaptation rapide à un environnement complexe et incertain. Donc, qu'est-ce que ça change de travailler en mode agile ? Eh bien, toujours beaucoup plus de choses qu'on ne le pense au départ. La plupart du temps, on pense adopter des méthodologies ou des organisations de travail différentes avec des mots barbares, du Scrum, du Kanban, du Safe et pourquoi pas un peu de Spotify. J'entends beaucoup parler de la méthode agile ou des organisations agiles. En réalité, c'est tout un petit peu plus compliqué. PPC, si je prends la métaphore du corps humain, par exemple, disons que
allons-y.
Mon agilité, tu vois, je veux être plus agile, plus souple, plus rapide, plus en mesure de m'adapter, plus stretch. Bah, c'est quand même compliqué. En plus, je ne suis pas très sportif. Alors, ça veut dire qu'il faut que je travaille mes gestes, ma précision, mes réflexes, l'autonomie de tous mes membres. Je dois travailler ma coordination, et ça, c'est un sacré challenge. Et donc, la capacité de mobiliser finalement et mon corps et mon esprit pour un objectif commun. Donc, c'est beaucoup de choses. C'est aussi travailler la confiance en moi, mon écoute, mon souffle, ma conscience de moi et de mon environnement, et puis ma capacité à dépasser finalement mes limites physiques sans me blesser. C'est presque une révolution. Alors, t'imagines, à l'échelle d'une organisation, bah, c'est pareil. Il faut que je développe ma capacité d'adaptation en travaillant mes gestes, mes pratiques, mes croyances, ma culture, pour dépasser le cadre existant. Et finalement, ce qu'on oublie souvent quand on se dit, bah, tiens, allons travailler en mode agile, c'est que sont toutes les conditions du management, de la prise de décision, de la délégation, de la collaboration qui sont challengées. Et je pense que c'est important d'en avoir conscience pour appréhender ce changement de manière équilibrée, puis surtout durable.
Donc on voit bien, c'est un sujet de management en fait, hein, ce sujet. Mais quand on est une entreprise où, bon, certains ont dit oui, on est agile, mais en fait, ils ne le font pas vraiment, comment on s'y prend pour démarrer avec un premier projet en agilité ? Ça marche comment ? On fait quoi ?
La première chose, je pense, hein, c'est déjà est-ce que le projet, c'est un bon candidat à l'agilité. L'agilité, on n'a pas besoin partout. Ça pourrait être mon métier, je ne vais pas le vendre à tout le monde et à tous les moments. L'agilité, c'est utile quand on a besoin de s'adapter à l'incertitude. Quand on n'est pas sûr du produit, du projet qu'on va mener, qu'on n'est pas sûr de la solution qu'on propose par rapport à un besoin, quand on n'est pas sûr des technologies. Donc déjà, s'assurer que le projet, c'est un projet d'incertitude et que donc on a besoin de s'adapter en continu. Et puis la deuxième chose, je dirais, c'est peut-être le mode de collaboration. Ce qu'on va chercher en agilité, c'est de prendre les bonnes décisions au bon moment, c'est d'éviter de perdre du temps, c'est se tromper le plus rapidement possible. Ça veut dire qu'on va dépasser les silos traditionnels des entreprises. On va non pas travailler par séquence où chaque expert va intervenir à un certain moment, le design très en amont, puis les gens qui vont définir les spécifications du projet, puis les gens qui vont développer le projet, puis les gens qui vont lancer, puis les gens qui vont analyser les résultats. En fait, toutes ces personnes-là, on va les mettre ensemble dès le début et on va s'assurer qu'elles partagent une même vision de l'objectif. On ne va pas partir du principe qu'il suffit qu'un boss a décidé qu'il fallait faire quelque chose et qu'une autre personne a fait 300 pages de spécification pour se dire « Ok, c'est facile, on va y arriver ». Non, on va mettre les gens ensemble, en continu, dans la durée.
Ok, donc on commence par les gens, on a le projet, donc on a le où, le why, bon c'est le sens du projet, ça il faut le trouver. Le comment, ça se fait quoi ? Ce sont les équipes qui décident du comment on fait les choses, ce sont des injonctions, c'est le patron qui dit non, organisez-vous comme ça, comment ça marche concrètement ?
Alors si j'observe une organisation déjà agile, qu'est-ce que je vois ? Je vois une ou des équipes qui prennent des décisions par elles-mêmes sur leur périmètre pour atteindre leur objectif. Donc, au final, je vois éventuellement des leaders qui posent un cadre, qui échangent sur un objectif et qui finalement délèguent à des équipes le qu'est-ce qu'il faut faire et comment on doit le faire. Ça, c'est, voilà, c'est de l'observation, c'est ce que je dois pouvoir voir, constater dans une organisation qui se pense agile. C'est vraiment une question de délégation. Tout tient à la vitesse des prises de décision et à leur pertinence. Au final, dans la plupart des organisations, prendre des décisions nécessite des validations, de demander des autorisations. Donc bah forcément, le chemin des autorisations, c'est un chemin long. On perd du temps. On perd du temps pour vérifier des hypothèses. On perd le temps dont on a besoin pour s'assurer rapidement que la solution qu'on propose, elle est adaptée à un besoin. Donc en Agile, on va mettre la décision plus proche du terrain, là où on a besoin de la prendre, là où un événement se produit.
C'est une question, un commentaire plutôt de Vincent, mais je voudrais te faire réagir dessus. Vincent nous dit « L'agilité demande beaucoup plus d'intelligence collective et individuelle et ce n'est pas toujours facile. » C'est vrai que ce n'est pas toujours facile. On fait comment quand ce n'est pas facile, Nicolas ?
C'est vrai. En plus, je constate souvent que il y a des injonctions comme ça. On se dit « Bon, bah, on est agile, donc c'est à vous de prendre des décisions. C'est à vous de vous organiser entre vous. Voilà. Dans le meilleur des cas, cette décision managériale, leadership qui dit « Bah, c'est à vous. C'est vous qui honnez. C'est vous qui avez la responsabilité. » Comme diraient les Américains, vous êtes « accountable » avec ma super prononciation. Et c'est pas simple parce qu'on a plutôt appris le contraire. On a appris un environnement très papa-maman, très professeur-élève, très infantilisant finalement. Et sortir de ça, c'est difficile. Mais c'est difficile a priori. C'est difficile a priori quand on se dit « Ah non, mais jusque-là, moi j'avais juste la responsabilité de faire ce qu'on me disait de faire. Je n'avais pas la responsabilité de prendre des décisions collectivement, donner mon avis, prendre des risques. Mais si on pose un cadre où on a le droit à l'erreur, si on pose un cadre où on a le devoir et la possibilité d'apprendre, en fait, c'est assez simple, c'est même très enthousiasmant. Je peux prendre des décisions à condition simplement que j'ai pu échanger avec mes pairs, avec les autres personnes, comité sur l'objectif, pour m'assurer que c'est la bonne décision. Donc, c'est pas facile. Et en même temps, au final, c'est plus simple. C'est plus simple parce que si on regardait ça d'un peu plus loin, c'est que du bon sens. Finalement, l'agilité, c'est le meilleur prétexte que j'ai pu trouver pour retrouver du bon sens dans la vie d'entreprise.
Et alors, quand on est arrivé avec l'agilité à retrouver du bon sens dans la vie d'entreprise, il y a un retour en arrière ou pas ? C'est compliqué de revenir en arrière ? On ne peut plus revenir en arrière ?
Ah, est-ce qu'on peut revenir en arrière ? Y a une tension qui se crée quand on commence à aller chercher un peu d'agilité. D'abord, une tension qui se crée entre ceux qui ont changé de façon de faire, de façon de penser, et qui ont changé de vocabulaire aussi, hein, sur les agilistes en plus. Hein, ils ont des mots pour tout, et c'est jamais ceux qu'on utilise d'habitude. Et à côté de ça, il y a le reste de l'entreprise. Si elle n'a pas basculé, votre entreprise, qu'est-ce que c'est que ces gens ? Qu'est-ce que c'est que ce langage ? Qu'est-ce que c'est que ces façons de faire ? Donc, il y a une première tension qui se crée, qui est finalement la résistance du système, qui se dit « ce changement, il est étrange, je vais aller m'en débarrasser ». Il y a une sorte d'homéostasie, de retour en arrière qui peut aller très très vite si on ne crante pas ce changement, si on ne le déploie pas. Ça, c'est la première chose. La deuxième tension, en effet, c'est qu'une fois qu'on y a goûté, à ce plaisir de travailler au plus proche de l'utilisateur, du client, du citoyen, ce plaisir de collaborer avec des personnes qui ont d'autres expertises, et donc au quotidien d'apprendre finalement de nouvelles choses, une fois qu'on y a goûté, on n'a pas du tout envie de retourner en arrière. Et donc, à un moment donné, on se retrouve pris dans cette double tension. Gérer la différence au sein d'une organisation, au sein d'un système, et puis adresser le fait que, une fois qu'on y a goûté, on ne veut pas retourner en arrière. Jamais.
Une fois qu'on y a goûté, on ne veut pas retourner en arrière. C'est Suzanne qui nous dit que l'agilité peut aussi faire peur. Tiens, une question d'Olivier. Il te demande quelles sont les étapes pour passer d'un mode traditionnel à un mode agile.
deux échanges sont très très bons. Peut-être la première étape, c'est justement traiter cette question de la peur. Parce que au final, ce n'est pas tant l'agilité qui fait peur, c'est le changement. C'est le changement dans lequel on ne peut pas se projeter. C'est le changement qui est imposé. C'est le changement sur lequel, finalement, on n'a pas trop de prise, en général, dans les entreprises. Juste quelqu'un a décidé qu'il fallait être plus agile, ou plus digital, ou plus produit, ou je ne sais quoi. Pour moi, la première étape, elle est là. Traiter cette peur, non pas par force de conviction, mais plutôt en s'assurant qu'on met en conversation avec tout le monde, en tout cas toutes les premières personnes concernées, ce qu'on cherche à atteindre. Qu'est-ce qu'on cherche à atteindre ? Est-ce qu'on cherche à être des génies, des stacanovistes de nouvelles méthodes de travail ? Est-ce qu'on cherche à être des super agilistes, des praticiens du Scrum, de je ne sais de quoi ? Ou est-ce qu'on cherche collectivement à trouver des façons de faire qui nous correspondent plus, dans lesquelles on se sent mieux et qui vont apporter des solutions plus à même de répondre à des besoins utilisateurs. Et je pense que c'est cette conversation-là, l'étape 1. Qu'est-ce qu'on cherche à obtenir ensemble ? Ensuite, on peut commencer à changer les gestes progressivement, changer les façons de faire, mais toujours en gardant à l'esprit non pas la nouvelle méthode qu'on souhaite employer, mais plutôt ok, quels sont les principes sous-jacents, pourquoi est-ce que je vais changer de geste et comment je vais changer de geste. Moi, j'aime beaucoup m'atteler aux problèmes d'une part et aux objectifs. Aujourd'hui par exemple, toutes les entreprises ou toutes les organisations ou toutes les équipes n'ont pas les mêmes problèmes un instant T. Donc, j'aime bien poser cette question. Okay, maintenant qu'on sait pourquoi est-ce qu'on veut changer de façon de faire, quel premier problème qu'on a, et ça peut être, ça nous prend du temps d'aller jusqu'à l'utilisateur parce qu'il y a plein d'étapes, ou on ne communique pas assez les uns avec les autres, ou entre l'idée qu'on avait au départ et à la fin, il y a un fossé. Ok, prenons ce problème et voyons, expérimentons des petites choses qui vont nous permettre de vérifier que les nouvelles façons de faire qu'on nous propose, ce sont les bonnes, celles qui sont le mieux adaptées à nos besoins. Donc, je pense que ça, c'est la deuxième étape. Comprendre les problèmes et commencer à pratiquer différemment, à changer de geste, mais toujours sous la forme d'hypothèses et d'expérimentations.
Toujours tester et voir les retours. Il y a une question de Pierre, il est sur LinkedIn. Il nous dit qu'il y a souvent une nécessité de complémentarité entre des briques de projets en agile et puis celles qui sont en V. Comment on gère ça ? La question est vaste, mais fais-nous une réponse courte.
Alors, comment on fait pour gérer les deux ? Alors, c'est mieux quand on n'a pas à gérer les deux. L'important, dans ces cas-là, c'est deux choses. D'abord, s'assurer que tout le monde, qu'on soit en cycle en V ou en agile, est bien en train de travailler sur un périmètre clair, protégé, avec des frontières. Alors, ça a l'air très paradoxal parce qu'on parle d'agilité, de collaboration, de briser les silos. Oui, mais on a besoin de frontières claires, d'accord, pour pas saturer cognitivement, pour pas être continuellement dépendant des uns et des autres, surtout d'être dépendant entre du cycle en V et des agilistes, c'est-à-dire entre des gens qui avancent très très vite et qui démontent des petites choses en continu, et du cycle en V où on a besoin d'atteindre avec dans la durée des livrables un peu imposants. Donc on a besoin de se protéger, de réduire les dépendances, d'avoir des périmètres très très clairs. Et puis on a besoin de mettre en conversation de manière régulière, ritualisée. Donc entre les cycles en V et les agis, ce que j'aime bien faire, c'est régulièrement un point sur ok, est-ce qu'on est toujours aligné sur l'objectif ? Comment est-ce qu'on peut corriger nos dépendances ? Est-ce que les agilistes peuvent prendre un peu plus d'autonomie par rapport à un sujet ? Ou est-ce que, du coup, côté cycle en V, on peut modifier le périmètre pour que le projet soit plus serein ? Donc, il y a cette mise en conversation.
Question de Patrick. Il te dit, si je dis agile, souvent, on lui répond fragile. Tu réponds quoi à ça ?
Je réponds anti-fragile. L'agilité, c'est la capacité d'adaptation rapide au changement. C'est la capacité à tirer meilleur parti de la complexité, de l'incertitude, d'accord, en allant chercher du feedback rapide. Donc, ça peut avoir l'air fragile. En réalité, c'est le premier pas vers la résilience, c'est-à-dire la capacité à encaisser les coups, les crises, l'incertitude et à retrouver sa forme initiale, voire, ça j'en suis convaincu, et pour moi, la crise que j'espère on est en train de quitter, le démontre, c'est le premier pas vers l'antifragilité. C'est-à-dire que face à la crise, quand on regarde une fois qu'elle est passée, on se rend compte que ceux qui sont dans l'agilité, donc ceux qui sont dans cette recherche continue d'adaptation, sont meilleurs après la crise qu'ils ne l'étaient avant. Ils sont encore plus à même de performer qu'avant le changement, avant la crise. Donc pour moi, les agilistes sont avant tout des antifragiles. Si on répond à agile, fragile, c'est qu'il y a un petit travail à faire sur le mindset, mais peut-être aussi sur les preuves que l'on peut apporter aux personnes qui ne savent pas tout à fait de quoi on parle.
Ok, super. Allez, une question, c'est celle de Lionel. C'est peut-être une question un peu plus personnelle, d'ailleurs. Est-ce que le mode agile déteint sur ta vie privée aussi?
Mais oui, mais tellement.
Bien vu, Lionel.
C'est génial. Ouais, alors je suis tombé dedans en plus il y a une dizaine d'années maintenant. Et oui, ça déteint sur ma vie privée. Alors très très positivement. À certains moments, alors j'ai un certain nombre d'enfants. On a un petit côté agile family, c'est-à-dire que quand on a des gros projets ou des grosses crises, tiens, comme le premier confinement, on pose un board, un tableau dans le salon, on pose nos tickets sur qui va faire quoi, on se réorganise pour les devoirs, pour s'adapter à la situation. Régulièrement, on fait des rétrospectives en famille, on discute le dimanche de qu'est-ce qui s'est bien passé dans la semaine, qu'est-ce qu'on aimerait améliorer. On travaille la richesse de notre collectif, notre compréhension mutuelle pour faire les choses mieux. Donc oui, ça a un impact sur ma vie de famille, même sur la façon dont on adresse les vacances, pour être sûr que ça se passe bien. Souvent, avec mon épouse, on se pose cette question, okay, nos vacances, on en attend quoi? C'est quoi donc, finalement les caractéristiques idéales de nos vacances? Puis on crée la vision de notre objectif de vacances. Après, on définit un petit peu les contraintes que l'on a, le temps, le budget, etc. Les envies de chacun. Je préfère ne pas avoir à faire le ménage, les courses, etc. Okay. On met ça ensemble et c'est ça qui va nous aider ensemble à trouver bon modèle de vacances. Mais cette agilité, moi, elle déteint aussi beaucoup sur ma façon de m'organiser et de manager, c'est-à-dire... Ça fait maintenant 8 ans que ma vie professionnelle et privée, ma to-do list, est gérée avec un Kanban, un outil issu du Lean, très utilisé en agile. Mmh. Et ça m'a sauvé la vie un nombre de fois considérable. Ça a même sauvé mon couple, d'après ma femme.
Ah bah c'est bon, c'est bon.
On s'est retrouvé avec 3 enfants. On est acheté un appartement, il y avait les travaux, on changeait de nom. Bref, c'était l'enfer.
Et vous avez fait une rétro.
ouais, et puis on a posé ce Kanban partagé pour ne plus se disputer le soir sur mais t'as sorti les poubelles, t'as appelé la banque, t'as fait ceci, t'as fait cela, t'as
plein de poker. C'est bon.
Et en fait, là, on a tout posé. Le fait de tout poser dans le board et de tirer des tickets, les choses à faire, ça crée de la transparence. Du coup, il y avait moins de tension et le soir, au lieu de s'engueuler, on pouvait se retrouver, faire un câlin. Regarder une série.
Formidable. Tiens, je te prends une question. Ça change la vie, c'est beau. Une question de Zuber sur LinkedIn. Peut-on être agile dans tous les métiers, dans la presse ou même dans le bâtiment BTP? Oui. La réponse est oui.
On peut développer sa capacité d'adaptation. On doit développer sa capacité d'adaptation, d'innovation dans tous les métiers. Après, on ne va pas forcément s'y prendre de la même manière. Alors, il y a quelques années, on disait bon, on va pas construire des ponts et des fusées en agile non plus. Bon, on a changé d'avis depuis, puisque on voit bien qu'aujourd'hui le leader du transport spatial est un agiliste.
Sans le nommer.
Donc, on peut en effet adopter des principes, je dis bien des principes agiles, dans tous les domaines. Après, c'est pas forcément, on va pas forcément faire les choses tout à fait de la même manière. Il faut respecter les particularités des contextes et des métiers.
Question d'Isabelle. Qui peut impulser ce passage en mode agile au cœur d'une organisation?
Ça dépend de l'organisation. Si on est dans une organisation très hiérarchisée, par exemple, nécessairement, l'impulsion du changement elle doit être portée ou née par un leader, par quelqu'un qui a la possibilité d'influencer, de donner les moyens au changement. Parce que dire il faut changer pour en donner les moyens, c'est un jeu à somme nulle. Quelqu'un qui est capable aussi de montrer l'exemple. Dans une organisation hiérarchique, il faut aller taper tout en haut. Quelle que soit la typologie d'organisation, d'ailleurs, association, très très grand groupe privé ou mixte, petite, c'est toujours pareil. Il faut que ce soit porté avec leadership.
Question personnelle, c'est une question de Jérôme. À quand un petit e-book ou un gros, Nicolas, sur le travailler en mode agile?
Justement, PPC, on en parle.
ça nous tend la perche, terrible. Ah, merci, Jérôme.
J'ai des publications, mais on pourra vous donner des références si vous le souhaitez. Assez sympa. Il y a aussi de très beaux livres blancs chez Octo Technologies que vous pouvez télécharger gratuitement sur la culture du changement, la culture agile, la culture du flow, hein, du flux. Mais en effet, je pense qu'on va bientôt pouvoir passer au petit e-book sur passer en mode agile avec PPC. Mmh.
Ouais, ça. Bon, alors déjà, la grande nouveauté, c'est que depuis ce matin, 6h du matin, si vous aimez les podcasts, c'est le petit cadeau qu'on vous a fait avec Nicolas. On a profité des vacances de l'été pour sortir un nouveau podcast. Ça s'appelle Agile pour de vrai. Vous avez les références dans les liens sur LinkedIn et sur YouTube, si vous êtes sur l'une ou l'autre des plateformes. Ça s'appelle Agile pour de vrai. On vous la joue à la Netflix. C'est 6 épisodes. On les a tous mis d'un coup. Voilà, vous pouvez tous les écouter. Et c'est structuré selon, on démarre par le why, on continue par le who, le what, le how, et la suite. Et puis, on a même fait un dernier épisode, le 6e. Vous conseillez de les écouter dans l'ordre, hein, parce que c'est comme une série. Le dernier vous apprendra il se passe quoi après l'agilité. Voilà, c'était le petit cadeau. On a pris beaucoup de plaisir à tout ça. Merci aussi à Jérôme. Nicolas, on est pile un peu en retard. On a été gourmand aujourd'hui, mais bon, ça fait un grand plaisir. On a plein de questions encore. Tu y répondras. Il y en a plein qui sont aussi sur LinkedIn. Je voulais te remercier d'être présent ici. Tu es le bienvenu pour nous parler de toutes ces nouvelles façons de travailler. Quant à toi qui écoutes ce podcast sur ta plateforme de balado diffusion, si ça te plaît, n'hésite pas à le partager, à mettre quelques étoiles et un commentaire si tu es sur Apple Podcast. Et puis sinon, on se retrouve très vite. C'est demain matin, à partir de 7h30, en direct, sur LinkedIn, YouTube et Twitter. C'est le débrief de la rédac. Comme chaque vendredi, 3 membres de la rédac room me rejoignent et on va débriefer sur ce qu'on a appris cette semaine, sur les perspectives que ça nous a ouvert, sur la façon dont on voit les choses. Et demain, j'aurai le grand plaisir d'être accompagné d'Alice, Isabelle et Lionel. Voilà. Ne lâche rien, passe une bonne journée. Merci à vous tous et surtout, soyez au top. Ciao, ciao mes amis. Enfin.